Il est 9h28 minutes. La 15e édition du Festival Haïti en folie va se dérouler du 26 juillet au 1er août prochain à Montréal. Et l'auteur Denis Laferrière va assurer la présidence d'honneur de l'événement. Il y aura plein d'invités, entre autres Michaël Jean, Dominique Anglade, Isabelle Racicot, Alexandra Diaz, Valérie Plante. Il y aura plein de gens qui vont être impliqués dans cette livrée, 15e livrée, n'est-ce pas, du Festival Haïti en folie. Monsieur Laferrière, tu es avec nous. Bonjour, Daniel Laferrière.
Oui, bonjour.
Je suis content de vous recevoir. C'est, évidemment, il y a un contexte particulier à ce 15e festival avec ce qui se passe en Haïti. De quelle façon ça va influencer le festival, à votre avis?
Mais je pense qu'on a besoin d'entendre parler de culture.
Oui.
Immédiatement, le jour suivant même du tremblement de terre de Port-au-Prince, Chantal Guy de La Presse, qui était à Port-au-Prince, m'avait demandé ce que je pense de l'événement, qui était quand même l'une des plus grandes catastrophes de notre époque. Et on se souvient, 300 000 morts en 35 secondes. Et j'avais dit que quand tout tombe, il reste la culture.
Ouais.
Alors, la culture, c'est le substrat, c'est ce qui reste toujours. En Haïti, malgré les coups d'État, malgré les cyclones, malgré les tremblements de terre, malgré les instabilités politiques, et on remarque que la culture non seulement parvient à survivre, mais on dirait qu'elle fleurit sous le fumier. Et c'est là que Haïti, disons, même avec le confort, ressemble au Québec, même avec son confort, c'est-à-dire que nous avons beaucoup misé aussi au Québec sur la culture. Mm-hmm. C'est la culture, c'est notre langue.
Qu'est-ce qui fait justement que la culture est si forte en Haïti? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Là. Il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains,
de peintres surtout, et beaucoup de musiciens. Et bien, cette culture-là, elle est debout parce qu'elle repose sur un trépied, c'est-à-dire une histoire exceptionnelle, l'indépendance d'Haïti. Et on l'oublie, on s'en moque parfois, mais il reste un fait que c'est la première fois dans l'histoire humaine, que des esclaves se sont révoltés et ont fondé une nation.
Ouais.
Spartacus avait fait une tentative qui malheureusement avait échoué, et puis depuis, il n'y en a pas.
Ouais.
Il n'y a pas. Jamais. Et contre quoi? Contre l'armée la plus forte de l'époque, celle de Napoléon Bonaparte. Et on dit toujours aux Haïtiens qu'ils ressassent cette même histoire. Mais c'est pas vrai. Les Italiens ressassent, disons, la montée de Rome. On parle encore de Rome, les Français, Napoléon, c'était cette son année. Et on en a parlé beaucoup. Et c'est la même époque que l'histoire haïtienne. Les peuples ont besoin d'histoire, ils ont besoin de gestes, ils ont besoin d'actes d'héroïsme pour survivre. Il y a cette histoire-là, il y a une langue qui a carrément fleuri dans la fournaise de cette guerre coloniale et aussi sur les plantations. Et parce que on avait placé les esclaves de manière à ce que les tribus, les gens ne peuvent pas trop bien se communiquer entre eux et pour empêcher qu'ils se révoltent. Eh bien, ils ont fondé une langue nouvelle, le créole. Et tout cela a été fait grâce à cette révolution à une religion qui était plus combative. Et même que la religion catholique qui demandait aux esclaves de rester sans rien faire. Bienheureux, le pauvre d'esprit, bienheureux, c'est qu'ils ne contestent pas d'une certaine manière. Et c'était le vaudou. Et une religion nouvelle, et même si elle vient d'Afrique, mais elle s'est implantée de manière, disons, des racines locales, une langue, le créole, une histoire exceptionnelle, une indépendance, et ça fait une base pour une identité.
Ah oui, tout à fait, très forte. Mais quand est survenu, il y a deux semaines, l'assassinat de Jovenel Moïse, dans une lettre ouverte, vous avez invité les gens à dire, ben, posez-moi pas des questions sur ce qui se passe là-bas. Allez plutôt lire le livre « Les villages de Dieu » que j'ai lu et qui décrit la réalité de ces quartiers autour de Port-au-Prince, extrêmement pauvres, où sévit une violence, mais qui est quotidienne. Les gangs de rue, la prostitution, le manque d'éducation aussi des personnages qu'on peut lire. De la santé, etc. Et en lisant ça, j'avais l'impression... En fait, c'est troublant de voir à quel point la misère humaine est présente dans ces quartiers-là.
Mais aussi, ce qui est beaucoup plus troublant que cette misère terrible, hurlante même, ouais. c'est le fait qu'on voit une humanité. Il y a quand même des grands-mères, il y a des femmes ouais. qui sont fiancées, dont les fiancés meurent, comme chaque jour des gens meurent dans ces quartiers-là, parce qu'ils s'entretuent avant de tuer ailleurs ouais. aussi. Et comment ces gens vivent sous une chape de plomb et fait par des gens qui habitent dans le quartier. Mais malgré tout, ces leaders qui sont des assassins ont dans la bouche des mots d'idéologie. Mm-hmm. Ils veulent changer la société haïtienne. Ouais. Ils veulent changer leur quartier. C'est étonnant quand même de voir comment le discours révolutionnaire a pu s'établir même en enfer. Ouais. Parce que c'est l'enfer.
Oui, tout à fait, mais c'est ce qu'elle décrit d'ailleurs, Madame Prophète, dans ce livre-là. C'est l'enfer, effectivement, pour les gens qui vivent dans ces quartiers-là, qui sont confrontés à cette violence-là.
Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'on a eu tous ces événements dernièrement, mais nous savons bien qu'après le départ des Américains, de l'ONU, ils ne sont pas là, mais ils sont là, le FBI, la CIA ouais. et tout, après, quand la poussière retombera, il y aura toujours ces quartiers, cette misère mm-hmm. et ces gangs, ces groupes et de malheurs, de douleurs, de crimes. Donc Haïti fera face. Le livre d'Emily Prophète sera toujours présent. Ceux qui voudraient savoir comment se porte et comment se portera Haïti, et s'il n'y a pas un changement conséquent ouais. sur la réalité sociale, c'est-à-dire la misère, et devront lire Les Villages de Dieu d'Emily Prophète pour ouais. savoir ce qui va venir.
Ouais. Un des éléments qui m'a étonné un peu dans ce livre-là et un peu attristé, c'est qu'à un moment donné, dans le roman, on raconte que l'oncle de Célia, qui est le personnage principal, s'en va aux Olympiques à Atlanta. Et la grand-mère, en fait, la mère de ce jeune-là qui s'en va aux Olympiques là-bas, son seul souhait, c'est qu'il ne revienne pas.
Ben oui.
Et donc, elle se dit que l'avenir de son fils passe par le fait qu'il ne revienne pas en Haïti.
C'est la disparition.
Ouais.
C'est la disparition parce que revenir, c'est revenir dans la misère et augmenter la misère. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé quand ouais. il est revenu.
Quand il est revenu,
c'est
ouais.
une bouche de plus à nourrir. Et les hommes qui ne portent pas les armes et qui ne cherchent pas à tuer, et ils sont beaucoup plus en danger que les femmes. Parce que c'est une virilité qui est là offerte. Et donc, on a toujours envie de contrer quelqu'un qui aurait pu être un adversaire. Donc un homme qui se promène les bras ballants est une cible.
Ouais.
Une femme, peut-être, on peut la regarder comme, littéralement, avec des yeux de désir. Mais un homme, c'est vraiment l'adversaire. Et l'idée, c'est que quand vous partez, on prie pour que vous ne reveniez pas.
Mmh.
Même si vous n'envoyez pas l'argent, même si vous n'envoyez pas de nouvelles, c'est encore mieux
ouais.
que de revenir.
En fait, c'est l'espoir qu'au moins, il y ait un membre de la famille qui se sorte de cette misère-là, finalement, et de cette violence.
Absolument. J'avais ouais. écrit dans l'énigme du retour que c'est un pays où les gens, où un grand nombre de gens ne voyagent qu'une fois, c'est pour aller dans l'au-delà.
Ouais.
Le seul voyage qu'ils connaissent, c'est la mort.
Mm-hmm. Et il y a un autre élément que je trouvais, je veux pas qu'on passe l'entrevue au complet là-dessus, mais c'est parce que comme
non,
vous avez...
Quand même parler,
oui, oui, on va en parler, mais comme vous avez invité à lire le livre, je me sens dédouané oui. de le faire un
non,
peu.
Non, mais c'est tout à mais... fait dans ce que fait et Fabienne Collat. Et ce qu'elle fait, c'est précisément cela, faire connaître ce qui est bien,
ouais.
qui vient de cette culture, de ce pays qui est le sien, le nôtre, et c'est un pays cher au Québec aussi, et le Québec s'étonne avec raison de savoir que la culture continue à fleurir. Mm-hmm. Même pour dénoncer cette misère, c'est pas un bon livre,
ouais.
comme Les Villages de Dieu, mais il y en a plein, et des écrivains, ouais. il y a Uriel Trouillot, et il y a Yannick Lahin, ce sont des écrivains de premier ordre,
mm-hmm.
il y a Gary Victor,
ouais.
et chacun a un style différent, l'un est très engagé, l'autre a une pointe, et une lumière féminine dans les yeux qui donne une manière plus tendre de voir les choses. chose et un autre est plus surréaliste comme Gary Victor.
Ouais.
Donc il y a plein d'écrivains et plein de peintres, plein de musiciens et dans ce pays et ça continue à étonner les gens. Et c'est ce qu'elle fait voir Fabienne Colla en faisant ce genre de festival.
Alors comment on fait pour changer cette vie-là dans ces quartiers-là? C'est quoi la solution? Est-ce que ça existe une solution pour réussir à changer la réalité dans ces quartiers-là, à votre avis?
Ah mais oui, j'ai la chose. C'est parce qu'elle est si simple qu'elle devient impossible. C'est tout simplement changer la condition des gens. Vous savez que c'est presque très peu de pays auraient pu résister à ce que vit Haïti. Et quand il s'est passé cette chose qui est l'assassinat du président de la République, dans n'importe quel pays, c'est une explosion.
Ouais.
Il y a même des pays où, parce qu'une équipe gagne, on casse tout le centre-ville. Donc, dans n'importe quel pays, c'est une explosion et un bain de sang. Un président assassiné, et dans un pays où il n'y avait déjà pas de président, pas de premier ministre, disons, depuis très longtemps, où la constitution est bafouée constamment, je rentre dans la politique haïtienne, alors que je crois que c'est l'affaire des Mli prophètes, c'est ce que j'ai dit. Mais je veux dire que, et Haïti est capable de subir de très grandes tensions sociales, politiques, économiques, ou même de misère de santé. Le peu de choses, un peu de nourriture, une sécurité même limitée, et Haïti reverdit très rapidement. Parce que c'est un exemple pour le monde. Très peu de pays peuvent résister à une tension politique. Vous savez, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, et qui nous fait remonter à 30 ans de dictature, et même à des bouleversements bien avant. Depuis 1946, Haïti n'a pas connu la moindre petite stabilité politique, sociale, économique, avec une élite qui est complètement sourde et à la misère des gens. Et malgré tout, les gens ne sont pas sortis dans la rue, et beaucoup de ceux à l'étranger qui s'attendaient à un bain de sang ne l'ont pas eu.
Ouais.
Jamais on a vu une capitale aussi tranquille après l'assassinat d'un président de la République. Ça, il faut savoir, c'est là aussi la question de l'identité. Il faut savoir qu'est-ce qui sous-tend. Et alors que la pression était très forte, parce qu'il y a des gens qui auraient aimé qu'il y ait du grabuge pour ne pas passer devant les tribunaux plus tard.
Ouais.
Il y a des gens qui, peut-être, auraient aimé payer des gens pour sortir dans la rue et pour montrer qu'il y a du désordre. Alors, s'il y a désordre, il n'y a plus d'ordre, c'est-à-dire de justice.
Et c'est exactement ce que nous disaient les gens à qui on a parlé, justement, qu'ils étaient étonnés de voir cette espèce de calme, si on peut dire, à la suite de...
Le tremblement de terre, c'est la même chose. 300 000 morts et un calme aussi.
Ouais.
Et un calme, les gens crèvent de faim. Donc, c'est un pays, ça veut dire qu'ils sont prêts à au moindre changement positif.
Ouais.
Le pays refleurit.
Ouais. Bon, compte tenu de ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça change? Ou en fait, est-ce que ça donne encore plus d'importance à cette 15e édition du Festival Haïti en folie? Est-ce qu'on devrait... Est-ce que ça va changer d'abord le contenu de ce festival-là?
Non, ça ne change pas le contenu.
Ou le coloré, peut-être.
Non, c'est les gens qui regarderont ce festival avec cet arrière-fond. Et cet arrière-fond. Mais et Fabienne Colla, qui a longtemps vécu et qui vit encore en Haïti d'une certaine manière, qui a travaillé comme actrice et comme comédienne et qui a travaillé dans les milieux de la publicité et autres, qui a vécu dans ce pays, c'est que cet arrière-fond est constant en Haïti.
Mm-hmm.
On a toujours fait de l'art sur les immondices et sur une réalité politique exceptionnelle. On a toujours fait des écoles. Moi, ma mère m'emmenait à l'école chaque jour quand j'étais... au secondaire, et m'attendait dehors les jours où le président, le dictateur, n'était pas sûr s'il y aura classe ou pas classe. Quand on dit qu'il n'y a pas classe, ça veut dire qu'il y aurait des arrestations, ça veut dire qu'il peut y avoir des bombes, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais ma mère disait toujours, quel que soit ce que fait le dictateur, toi tu vas à l'école. C'est toi qui m'intéresse. Ce qu'il a en tête ne m'intéresse pas.
Ouais.
Tu vas à l'école et comme beaucoup de mères ont fait ça, donc les écoles sont obligées d'ouvrir.
Ouais.
Ils amènent et ils attendent. Moi, je me souviens toujours d'une kyrielle de mères qui attendaient dehors leurs adolescents. Je parle de 15-16 ans.
Ouais.
et leurs adolescents qui étaient à l'intérieur pour courir et les emmener quelque part se cacher s'il y avait quelque chose qui dépassait les bornes.
Mais il fallait y croire quand même à l'importance de l'éducation, d'envoyer les enfants à l'école dans un contexte aussi.
J'ai un journaliste ami qui est mort, qui était à Radio-Canada.
Nous autres, il fait moins 15, mais il y a un peu de vent, puis on n'envoie pas les enfants à l'école.
Mais je me souviens, quand on était allé en Haïti, il y a la grande place de Port-au-Prince où il y a tout le monde est en train d'étudier. Et ça fait tellement beau de voir tous ces jeunes gens. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas de maison. Ouais. Ou quand ils ont une maison, il fait trop chaud. Toute la chaleur reste à l'intérieur. Et puis, il y a trop de gens pour étudier. On va étudier là. Il m'a dit, mais ils commencent à étudier avant l'ouverture des classes. Avant l'ouverture, c'était fin août. Et comment ils font? Pourquoi ils aiment tant ça l'école? Mais c'est la seule chance.
Ouais. C'est la seule chance qu'il y a de se sortir de cette, oui. De cet enfer-là, dans le fond. Donc, le festival, ça commence le 26 juillet. Qu'est-ce qui va se passer dans ce festival?
Ben, il va se passer qu'on va voir fleurir la culture haïtienne à Montréal. Ça va être, il y a la bibliothèque, la grande bibliothèque va être requise. Il va y avoir beaucoup d'artistes, des chanteurs de renom et Diem Germain. Il va y avoir... Et je crois, Emily Michel, vous savez, je ne connais pas les détails, tout ce que je sais. Et la mairesse aussi va intervenir. Ouais. Il va y avoir des conférences. Madame Racicot. Et il va y avoir Michael Jean. Mm-hmm. Je vais moi aussi. Et faire avec au milieu de tout ça. Et Fabienne Collin qui va animer son festival. Et qui a 15 ans, qui est un adolescent, ce festival. Ouais. Il a toutes ses dents. il est jeune. Il est vif. Et il est plein d'avenir, il a 15 ans. Donc, je me souviens, quand tout ça a commencé, j'avais rencontré Fabienne Collin et dans un café, au Café Chéri à Montréal, et elle me racontait son avenir. Elle venait d'arriver. Alors, je la regardais un peu, quand même. C'est une grande métropole, Montréal, on n'arrive pas comme ça. Mais c'est ça, c'est une fille de Port-au-Prince. Mm-hmm. Elle est de Pétionville, pour être plus sûr, mais elle arrivait là avec l'idée de conquête. Elle disait, ça manque ça.
Ouais.
Et quand elle, des années plus tard, ou quelques années plus tard, quand elle a voulu faire ce festival, ou ces festivals et autres cinémas et black et cinéma et tout ça, elle me disait, je veux que ce soit international. Et j'ai discuté pendant 4 heures avec Fabienne Collin pour lui dire, tu ne peux pas commencer quelque chose avec le mot international. International veut dire au moins 2 pays. Tu ne peux pas. Il me dit non. Elle me dit non, c'est international. C'est-à-dire, elle voyait loin. Et bon, moi, je sais voir loin aussi. Mais là, je trouvais que c'était un peu précipité. Mais elle avait raison. Et c'est tout à fait haïtien.
Ouais.
C'est tout à fait haïtien.
Ouais. Mais dites-vous, quelle est l'importance? En fait, est-ce que les Montréalais et les Québécois connaissent suffisamment la culture haïtienne? Parce que ça prend son importance là, un festival comme celui-là, de faire connaître, de faire rayonner cette culture-là, ces artistes.
Il faut continuer, il faut le faire. Et les Montréalais connaissent bien le jazz maintenant. Il y a eu le festival de jazz est devenu une réalité montréalaise. Je crois que c'est le plus grand festival peut-être au monde de jazz par le nombre d'événements. Et donc il faut toujours. C'est pas seulement pour faire connaître, pour faire savoir. Il faut que ça continue. Ceux qui connaissent doivent continuer aussi à se tenir au courant des nouveaux artistes. Parce que ça bouge beaucoup. Et moi, j'avais vu de mon temps, je regardais aujourd'hui des vidéoclips ce matin de la télé haïtienne. J'avais vu, c'était l'époque yéyé. Donc, tout le monde était yéyé. On faisait des chansons yéyé en Haïti, un peu comme
comme
ici,
on a fait ici.
Comme on a fait ici. Avec, époque, ouais. Et c'est ça, le petit goût des Classelles et autres. et autres. Mais maintenant.
Est-ce qu'il y avait un petit gros des Haïtiens?
Ah, sûrement. Mais c'est pas un endroit où il y a beaucoup de gros. Mais.
Non, par la force des choses.
Mais il y avait le petit Meg.
Le petit Meg des Haïtiens.
Il y avait le petit Meg. Mais il y avait tout ça. Et maintenant, tout a basculé un peu. Et à l'américaine, c'est en français,
ouais.
Mais on voit bien la gestuelle est une gestuelle et américaine. Guyane, c'est à cause ou c'est grâce à cette poésie populaire qui est le rap, où des jeunes gens du monde entier ont découvert la poésie grâce à cette manière
d'expression.
Oui, d'éructer pas seulement des fantaisies, mais des rages.
Ouais.
Et comme ça, au micro, ça prend pas beaucoup de gens, une guitare et quelqu'un, et des fois même
un
sans
peu de
guitare.
Rythme, et puis c'est parti.
Oui, du moment qu'on a le rythme. Donc, je pense qu'il faut se tenir au courant, et c'est ce que doit faire ce festival, de montrer ce qui se passe dans la culture haïtienne, un peu partout, que ce soit de Port-au-Prince, que ce soit de New York, venant de New York, que ce soit de Montréal même, et un moment, une sorte de parenthèse de culture haïtienne, et à cette saison, à chaque fois, à chaque année, presque à la même date, et pour que les gens se tiennent au courant et du rythme de cette culture. Ouais. Donc cette année, malgré les difficultés, elle est toujours là, puisque c'est la culture qui reste quand tout tombe.
Vous parliez tout à l'heure de l'ambition du festival, mais on va aussi souligner les 35 ans, vos 35 ans d'écriture durant ce festival-là.
Oui, de publication, je dirais.
De publication,
parce que d'écriture, vous savez,
vous avez écrit depuis la petite école.
On commence très tôt, avant de faire le premier livre.
Oui,
on commence très tôt à l'écrit. Mais, oui, ça fait 35 ans,
1900. Est-ce qu'il y a 35 ans, quand vous avez publié votre premier ouvrage, vous aviez cette ambition-là de devenir ce que vous êtes devenu quand même? Vous êtes un académicien, vous êtes un auteur reconnu internationalement. Est-ce que vous aviez ce rêve-là ou est-ce que c'est venu naturellement?
Non, je ne l'ai jamais vu comme ça et je ne le prends pas comme ça non plus du tout. Et c'est pour cela que je n'ai jamais été un grand écrivain. Et je suis un écrivain.
Il y en a qui le pensent, parce que vous êtes maintenant, vous avez été nommé à l'Académie française.
Oui,
il doit y avoir deux, trois personnes qui trouvent que vous faites un bon travail.
La grandeur de l'établissement, c'est possible. Mais quand je veux dire ça, j'ai jamais tenté d'être un grand écrivain. Vous savez, il y a un ton. Il y a quelque chose dans le style. Il y a un goût de l'épaisseur, du volume, qui fait de vous quelqu'un. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est écrire. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que si quand quelqu'un dit « mais on dirait qu'il n'a pas progressé », on dirait qu'il répète trois ou quatre thèmes, les mêmes, il joue la même musique. Et j'allais faire une comparaison pour montrer que je peux être à la fois modeste et en même temps vaniteux, comme Bob Dylan. C'est-à-dire qu'il est là, il s'appelle Bob Dylan tout le temps. Bon, il y a eu un moment entre la guitare sèche et la guitare électrique, ça, on n'a pas encore avalé, pour certains. Mais je veux dire,
vous ne l'avez pas avalé, en tout cas.
Ce qui m'a intéressé, c'était beaucoup plus que d'avoir des titres, c'était devenir un nom, c'est-à-dire un nom lié à un style. Et pour cela, il faut, et je me souviens, vous savez, les gens n'aiment pas toujours les grands écrivains. Et on n'a pas chaque jour envie d'admirer quelqu'un.
Ouais.
Des fois, on a envie qu'il soit proche de nous, qu'il nous donne l'impression qu'on aurait pu faire comme ça. Et les écrivains les plus aimés sont ceux qui sont des écrivains amis.
Mm-hmm.
Et on les prend, et puis on n'est pas à genoux pour les lire. On les lit, ils nous ressemblent. Et puis on se dit, mais si jamais j'ai du temps, je pourrais écrire comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse dans le style, moi.
C'est une impression, mais j'ai l'impression que vous explorez différentes choses depuis depuis quelques années. On a vu votre livre
à la main,
dont on avait parlé l'année passée. On avait fait une entrevue ensemble là-dessus. Là, petit traité sur le racisme que j'ai lu également. Est un autre style aussi vers...
Mais j'ai toujours fait ça, ça paraît pas parce que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait des essais comme là, presque perdu de ne rien faire, et des récits comme l'odeur du café sur l'enfance, des livres plus des analyses sexuelles de la société nord-américaine comme comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, des analyses politiques de cette société comme cette grenade dans la main du jeune nègre, des livres sur l'identité comme Je suis un écrivain japonais...
Ouais.
Et j'ai toujours des livres à la main pour montrer. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas chez moi ce but d'être un grand écrivain. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès dans un seul tunnel. Il n'y a pas cette ascension. C'est plutôt à l'horizontale.
Mm-hmm.
C'est l'ensemble qui compte pour moi et qu'on puisse voir la masse. C'est-à-dire le massif, c'est quand même 33 livres.
Ouais.
Et le massif, ça s'accumule sans que mes lecteurs ne le sachent même pas. Ce que j'aime, ce qui est encore plus fort que l'académie ou les prix, c'est d'occuper une partie de la bibliothèque de quelqu'un. Une petite étagère, ouais. un truc. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit « j'ai lu tous vos livres », ça ne veut pas toujours dire qu'il a lu tous mes livres, hein, il en a lu 5 ou 6. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient me dire, je suis sûr qu'en sortant aujourd'hui, quelqu'un va dire « non, j'ai tout lu vraiment ». Donc je vais dire c'est ça, c'est-à-dire faire en sorte que la personne voit se déployer harmonieusement un imaginaire.
Okay, mais est-ce que vous le faites par souci de donner quelque chose de différent aux gens qui vous suivent, qui s'intéressent à votre œuvre, ou si c'est pour vous que vous faites des choses, que vous explorez différentes avenues?
Selon mon humeur, selon ce qui
m'arrive. Parce que dans le traité, le petit traité sur le racisme, c'est un peu comme des pensées. Moi, l'image que j'avais, c'est, tu sais, un moment donné, tu te réveilles, tu dis, ah, j'ai une idée, tu écris un post-it, puis après ça, tu la mets là et tu les accoles les unes aux autres. Et c'est un peu ça ce que vous avez fait.
Exactement cela. Ouais. C'est-à-dire que nous avons des idées. Je crois que beaucoup de gens me disent, « Monsieur Laferrière, je n'arrive pas à écrire un livre. » Bien sûr, personne n'arrive à écrire un livre. Mais si vous vous contentez de moins, c'est-à-dire écrivez des pensées qui... Vous allez voir, vous les mettez, vous ne cherchez pas à en écrire 20 par jour. Ouais. Et quand ça arrive, vous allez voir à la fin de l'année, vous aurez quelque chose. Mmh. Maintenant, commence le livre. Parce qu'il y a quand même une fabrique de littérature. C'est là la différence. Maintenant, c'est comment les composer pour faire en sorte que de mettre deux réflexions l'une à côté de l'autre et qu'au milieu, il y a un espace vide et c'est l'espace du lecteur. Mm-hmm. Lui, il va discuter avec vous quand il vous rencontre, pas sur ce que vous avez écrit, mais sur ce qu'il a pensé et ce qu'il a voulu. Moi, j'aurais aimé, j'aurais dit ça si j'étais en train d'écrire ce livre. Ouais. Et ça, c'est difficile. C'est ça qui est difficile. Ouais. C'est ce qu'on n'a pas écrit qui est difficile. Bon. Ce qu'on a écrit, on l'a en tête.
Ouais. Il nous reste une minute à peu près, mais je voulais juste vous dire, votre livre, il fait réfléchir les gens. Ce que j'aime de ce petit traité sur le racisme, c'est que ça fait réfléchir et ça ouvre la discussion sur cet enjeu, ce thème important qu'est le racisme. C'est l'impression que moi, ça me laisse, en tout cas.
Moi, ce que je voulais, c'est précisément faire un livre qui donne l'impression au lecteur que je ne l'affronte pas, que je ne le confronte pas, que je ne l'enferme pas dans un cliché et qu'on est prêt à la discussion. C'est même pas une discussion. La réflexion que je mets là, j'aurais aimé qu'il ait l'impression que ça a fleuri sur la page sans auteur et que lui-même aurait pu l'écrire ou encore ça lui donne envie de discuter avec un autre.
Dany Laferrière, ça a été un plaisir renouvelé de vous parler. Je vous rappelle que vous êtes le président d'honneur de la 15e édition du Festival Haïti en folie. Ça commence le 26 juillet jusqu'au 1er août. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été là. On se retrouve à compter de 5h30 demain matin. Au revoir, à demain.